C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Il y a des traces de l'histoire, l'histoire avec un grand I, qui reste toujours bien mystérieuse des milliers d'années plus tard. Les statues de l'île de Pâques, qui les a réalisées, comment, les pyramides égyptiennes, énormes tombeaux ou plus encore. Pas bien loin de chez nous, à moins de 2 heures de route du studio, en fait, se trouve un lieu chargé de questions du même type. Vous connaissez sûrement l'alignement des menhirs de Karnak, site unique et historique en Europe, qui n'a pas fini de dévoiler tous ses mystères. Parlons donc menhirs aujourd'hui dans l'histoire avec un grand I, avec la fine équipe d'historiens. Bonjour Alexandre Blin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Benoît Laverve.
Pardon. Et bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, première question pour vous messieurs, je propose qu'on démarre l'émission par Karnak, ce lieu si particulier, puisqu'on peut décrire un peu l'endroit pour les auditeurs et les auditrices qui n'y ont jamais mis les pieds.
Oui, donc Karnak, c'est une ville du sud. Attendez, je me perds.
Du sud de la Bretagne.
Du sud de la Bretagne.
Dans le Morbihan.
Dans le Morbihan, tout à fait. Une ville côtière, ma foi, très charmante.
D'ailleurs, on y a été ensemble
l'autre fois. Ouais. Les plages sont plutôt chouettes et puis il fait bon vivre.
Oui, très sauvage comme lieu.
Mmh. Voilà, une ville bretonne en fait, oui. marquée par sa culture, sa gastronomie, cette paix tranquille qui caractérise cette région de la France.
On a pris le Airbnb qu'on a pris, la personne était très sympathique.
Très sympa, très
Joël.
Sympa.
Joël était très sympathique.
Ouais, et sa femme Sylvia.
Voilà.
Ouais.
Donc une ville bretonne comme toutes les autres, si j'ai envie de dire, si on faisait abstraction de quantité de menhirs posés dans un champ.
Ça, c'est la particularité de Karnak. Imaginez-vous un caillou de 3 mètres de haut par 1 mètre de circonférence, de diamètre, et il y en a des milliers d'érigés un peu partout à Karnak.
Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, c'est leur pourquoi ?
Pourquoi,
et c'est la question qui, qu'on se pose quand on est face à ces menhirs. Et ces dolmens, on y reviendra plus tard, qui ont une autre signification. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ont-ils fait ça ? Quelle est la signification derrière ce fait de poser des gros cailloux de cette manière ? La réponse, on la connaît aujourd'hui.
Et on la connaît depuis très récemment. C'est au congrès des historiens de 2021 qu'un de nos confrères italiens qui s'intéresse exclusivement à la culture bretonne a trouvé la réponse. Et donc, on était ensemble tous les trois au congrès. Et donc, on va vous faire part un peu de cette grande découverte qui a été annoncée.
Oui, effectivement, une découverte sur ces rochers qui nous fascinent, qui nous passionnent depuis, des milliers d'années, parce qu'ils sont là depuis une durée maintenant qu'on a entendu pendant ce congrès, justement, depuis des milliers d'années. Mais c'est complètement mystérieux, en fait. Enfin, on les a découverts. Imaginez-vous les populations de l'époque qui arrivent, découvrent des pierres érigées, des milliers, comme vous l'avez dit, sur plusieurs hectares, en fait. Enfin, c'est complètement dantesque. Qui, et d'ailleurs, vous avez évoqué ça tout à l'heure,
oui.
Comment ils ont fait ça, mais ils, qui ils,
c'est-à-dire... Ils. On a retrouvé dans la terre des traces d'alcool, de ce qui était l'alcool de l'époque, hein, de l'alcool vraiment.
C'était l'ancêtre du Shushen.
L'ancêtre du Shushen, hein, c'était vraiment très très plus de 90 degrés. Enfin, c'était
une concentration d'éthanol excessivement forte, effectivement.
On a fait le lien entre ces terres gorgées, je dis bien gorgées d'alcool.
Il y a eu d'ailleurs pendant de nombreuses années, il y a eu des accidents. Sur les terrains, parce qu'il y avait des départs de feu, des explosions,
et oui.
On ne savait pas d'où ça venait. Et en fait, c'est des gens qui laissaient traîner des mégots, mais avec la concentration d'alcool qu'il y avait dans cette terre, ça pouvait créer très très vite des départs de feu.
Donc, et d'ailleurs, c'était sur cette étude que travaillait plutôt notre collègue italien, sur cette espèce de... Il est parti d'une enquête, de légende sur ces départs de feu autour des menhirs et des dolmens, et il en est arrivé à cette conclusion en étudiant la terre, en travaillant avec un géologue, que le terrain autour des menhirs était imbibé d'alcool.
À la base, le départ de ces recherches, ça venait de la combustion spontanée de Gwendal Le Dru, on s'en souvient, en 2005. Donc un Breton qui avait pris feu spontanément dans un champ de menhirs, et notre collègue italien, Silvio, travaillait là-dessus.
Oui, Silvio Alfrodi, donc vous le citez, a effectivement mis en évidence cette relation entre l'alcool, la concentration d'alcool dans le sang, et puis ce départ de feu, cette combustion instantanée de ce pauvre homme, Gwendal Ledru. Et effectivement, ce qui est très, très intéressant en fait aussi, ce qui a permis justement de remonter jusqu'à cette découverte plus tard, c'est aussi les découvertes des corps en fait, d'enfants qui avaient pu être retrouvés dans le sol, étant donné que malheureusement, par leur petite taille, les vapeurs d'alcool qui s'évaporaient du sol faisaient que les enfants justement tombaient à même le sol et mouraient à cause des vapeurs d'alcool qui étaient trop concentrées. C'est un lieu qui a du coup pendant longtemps été catégorisé comme maudit.
C'est ça. Qu'on a perdu aujourd'hui de manière contemporaine, le lieu n'est plus maudit. On ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de départs de feu, ça c'était vraiment quelque chose d'avéré et qu'on n'expliquait pas. Mais le lieu avait perdu de son caractère maudit en même temps que les croyances celtes se sont un peu effacées pour nos croyances modernes.
Oui.
Mais alors pourquoi il y a tant d'alcool? Bon, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que là on tourne autour du pot. On est en moins 4400 avant Jésus-Christ. Les Bretons, donc les anciens Bretons, qu'on n'appelle pas encore les Bretons bien sûr, sont un peuple très festif. Très très festif. L'ancêtre du Chouchen à 90 degrés d'alcool, ça faisait des soirées rocambolesques. Et donc en fait, les premiers lieux, ce qu'a découvert notre collègue, c'est que les premiers lieux sur lesquels il y avait des menhirs étaient en fait des lieux de fête, qui étaient des lieux de rassemblement pour cette civilisation.
Et on pense donc que cette histoire d'alignement de menhirs était en fait un jeu de soirée des ancêtres des Bretons. On dit ancêtre des Bretons, on parle d'ancêtre du... on dit ancêtre des Bretons, et ancêtre du Chouchen, je tiens à mettre un mot là-dessus, parce qu'on est en moins 4400 et on n'a pas de nom précis pour qualifier le peuple qui vivait à cet endroit-là de la France et de la Bretagne à ce moment-là, et cet alcool aussi qu'on a pu retrouver. Et donc effectivement, on a déterminé que ces alignements de menhirs étaient en fait un jeu de soirée. Dont le nom nous échappe aussi également aujourd'hui, mais dans nos termes de scientifiques modernes, que l'on a baptisé...
Le jeu du gros caillou.
Le jeu du gros caillou, effectivement. Les règles étaient très simples. L'idée, c'était que en fait, deux personnes devaient, chacun leur tour, aligner le plus possible de menhirs sur un alignement vertical droit devant eux. Et c'était la personne qui s'effondrait en premier de fatigue, qui était perdante, voilà, tout simplement.
Et après, s'en suivait un slalom, en fait, du reste des participants, donc en état d'ébriété avancé, à travers le champ de menhir, et puis voilà, ceux qui arrivaient au bout sans se prendre de menhir remportaient la soirée, c'était un moment de fête et de liesse. Les ancêtres des Bretons, donc, qui vivaient là-bas à cette époque, étaient extrêmement musclés, il faut le savoir. Ces cailloux, si vous ne les avez jamais vus, pèsent entre 200 et 600, 700 kilos pour les plus lourds. Donc c'était vraiment des gens bien bâtis qui s'aidaient de bâtons pour mettre droit ces cailloux en soirée.
Ce qui est assez fou, c'est qu'on a, creusé justement cette étude géologique du sol qui a reflété une quantité importante d'alcool sous les menhirs, nous a permis aussi de faire des fouilles à cet endroit-là. Et on a retrouvé des ensevelis sous la terre et conservés extrêmement bien par le temps, grâce à l'alcool, des habits et des chaussures, notamment d'époque, de taille 55 quand même.
Oui, de taille 55, effectivement, les gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, étaient extrêmement bien bâtis. Ils étaient très, très sveltes.
Très bien bâtis.
Oui, très, très bien bâtis. Donc, avec des vêtements qui allaient dans ce sens-là, qui étaient très imposants, avec du coup des pointures qui pouvaient aller jusqu'à 55. Mais ce qui était aussi très intéressant, c'est de voir que justement, les chaussures étaient faites de telle manière qu'ils pouvaient aussi, justement, jouer allègrement dans ces terrains qui étaient un petit peu escarpés et pouvoir soulever et pousser des si gros rochers. Donc, des chaussures qui avaient des talons très 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 grand, hein. C'est un petit peu l'ancêtre du crampon finalement, hein.
Oui.
Non, c'était vraiment des...
On se déplaçait sur des terrains boueux, ouais, et accidentés, effectivement. Ouais.
Et puis sur la plage, hein, parce que c'est aussi une ville maritime. Et ça a mis aussi, cette découverte a aussi mis en lumière beaucoup de choses dans le monde de l'histoire de l'art, parce que on connaît tous les statues bretonnes, qui sont des statues d'hommes qu'on retrouve dans les musées, érigées, qui font 2,50 m avec des pieds très très larges, et qu'en fait on pensait être des statues d'hommes juste représenté
un peu trop grand,
à l'échelle,
quoi,
voilà, à l'échelle 2 à une échelle 1, 5, 2. Oui. Et aujourd'hui, ça met en lumière qu'en fait, ces statuts sont peut-être à l'échelle réelle, quoi.
D'ailleurs, je fais une ouverture. Cette étude de notre collègue
Silvio
a permis également de se poser la question, qu'en est-il de ces autres, comment dire, des autres formes de statuts qu'on a pu retrouver et qui sont inexpliquées.
On pense au dolmen.
Hein. On pense également, ouais, effectivement, au dolmen. Qu'est-ce que c'était les dolmens ? Eh bien, les dolmens, nos études ont reflété que les dolmens étaient
alors,
en fait.
Alors, on peut peut-être parler de qu'est-ce qu'un dolmen ? Un dolmen pour les gens dolmen, qui ne sont jamais à la Carnac.
Excusez-moi, oui. Un dolmen, en fait, c'est très simple, c'est trois gros cailloux disposés, deux qui sont ancrés dans le sol et un troisième qui vient se mettre.
Par-dessus
les deux autres, comme un toit. Voilà, il faut imaginer une porte.
Une porte en gros cailloux.
Une porte en gros cailloux. Les dolmens servaient en fait, sont en fait l'ancêtre du limbo. On en trouvait de toutes les tailles, en tout cas de toutes les hauteurs, hein, ce qui permettait de faire varier la difficulté du jeu.
Limbo, pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas ce que c'est, est-ce qu'on peut préciser un peu ?
Alors c'est un jeu, alors je ne saurais pas donner son origine.
C'est presque une danse.
C'est un mélange entre une danse et voilà, un jeu où les joueurs ou les participants sont amenés à passer... À se pencher en arrière et à passer sous un bâton tenu par deux autres participants. Et puis on descend le bâton pour augmenter la difficulté. Donc la difficulté du jeu, c'est un jeu d'équilibre dans lequel on se penche en arrière. Et puis il ne faut pas tomber et puis passer sous des hauteurs de, voilà, bah pour nous aujourd'hui, de 1 mètre, de 80 cm. Et ça, quand vous voyez un dolmen, ça vous met en lumière la taille des personnes de l'époque. Parce que bah, un dolmen, c'est quand même. Aujourd'hui, on passe aisément dessous en se tenant debout. Donc pour qu'un jeu. De la sorte puisse avoir lieu sous un dolmen, il faut vraiment des personnes très très grandes.
C'est grisant parce que c'est un domaine de l'histoire qu'on découvre tout juste là grâce à Silvio. D'ailleurs, Julien, là, vous venez de dire qu'on ne connaissait pas l'origine du limbo, mais...
Alors, maintenant, on la connaît.
Mais
je voulais dire du limbo moderne. Moi, je ne sais pas de quel pays c'est originaire, mais... Enfin, c'est sûrement parti de la Bretagne, mais après, ça a voyagé.
Ah oui, bien sûr, le limbo moderne.
Donc, on est vraiment là, en fait, avec l'histoire qui s'écrit devant nos yeux. C'est ça, encore, qui est intéressant avec cette discipline, j'allais dire, c'est que même à remonter avec des événements d'il y a des milliers d'années, on en apprend encore dessus aujourd'hui.
Oui, voilà, aussi justement de se rendre compte que si on continue de s'amuser aujourd'hui, c'était aussi justement une sorte de tradition qui se perpétue sans le savoir, en fait. Hein, vraiment, on a pu, c'est ce que j'aime, c'est ce que vous dites, c'est grisant l'histoire, mais c'est qu'on arrive à remonter cette boucle de savoir, on joue au limbo aujourd'hui, d'où ça vient, bam, on tombe à Carnac et l'explication des menhirs.
C'est pour ça qu'on fait ce métier.
Ah oui, on vit belles choses. Et puis là, bah, ça ouvre aussi des nouvelles portes. Hein. Le site archéologique de Stonehenge, qui est une formation de cailloux en Angleterre. Bah voilà,
j'ai hâte de savoir,
et là Silvio travaille là-dessus,
et oui.
Il va nous présenter a priori c'est le fruit de ses recherches au congrès de cette année, mais à mon avis c'est lié à la fête,
hein. Oui, parce que ça parle de comme quoi ça pourrait être un observatoire astronomique, mais maintenant avec les sources, a priori ça pourrait s'apparenter plus à ce qu'on appelle
ça expliquerait les nombreuses combustions spontanées de Stonehenge aussi.
Bien, effectivement, du coup peut-être une autre soirée, et si on remonte jusque là on pourrait peut-être se dire que c'est un ancêtre de la chenille par exemple.
Et puis quand Silvio aura débloqué les fonds pour aller voir sur l'île de Pâques, je peux vous dire.
Très bien, alors avant d'aller étudier encore plus les menhirs et autres gros cailloux, on va se faire une petite pause musicale.
La bourrée, la 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 résout à mal. À l'amour écoutez-y, à résout à mal.
Nous revoilà dans l'histoire avec un grand I après Benes Daou du groupe breton Les Ramoneurs de Minir, ça tombe bien. Alors, juste avant de se quitter, on faisait une espèce de pré-conclusion, on va dire, sur presque cette nouvelle discipline qui apparaît, c'est l'étude de lieux historiques sous le prisme de la fête. A priori, en 2022, l'indice le plus important pour expliquer pourquoi les menhirs existent, c'est ce fameux jeu que vous avez présenté. On n'a pas encore parlé du tout de personnages, alors que c'est quelque chose qu'on aime bien faire dans l'histoire avec un grand I. Et je crois que justement, tout le travail de Silvio, notre collègue historien, se centre autour de ce personnage un peu particulier.
Ben effectivement, en fait, Silvio a axé une grande partie de ses travaux de recherche a été liée à la géologie, mais aussi à la sociologie. Et on a trouvé des ossements et des écrits de l'époque qui nous présentent un personnage.
On a appelé Gwendal, mais pour.
On a appelé Gwendal, en hommage à Gwendal Le Dru.
En hommage à Gwendal Le Dru, oui.
Qui a connu un sort tragique à Carnac. Qui était une figure forte de l'époque, qui était, alors on suppose, un chef de, le chef du village de Carnac, aux alentours de moins 4400, et qui est à l'origine, en fait, de, de ces événements de liesse, de fête. Alors pourquoi ils faisaient la fête ? Ils faisaient la fête parce que en Bretagne, à l'époque, il fait froid. Et plus précisément, il pleut. Et ça, c'est bien connu. Ça restait aujourd'hui. La météo n'a pas changé. En Bretagne, il pleut. Et donc, toute la semaine, quand il vous pleut dessus toute la semaine, que vos vêtements sont trempés, forcément, vous avez envie de vous divertir, de vous échapper un peu de ça. Et c'est pour ça que voilà, Gwendal propose à son village, qui accepte très rapidement de faire la fête.
Oui, ouais. Il pleuvait énormément, il faisait très humide, il faisait très froid. Donc il y avait aussi une recherche justement de se réchauffer très vite. Donc c'est ce qu'on imagine aussi avec des retrouvailles justement lors des fous. On a retrouvé des très vieux alambics qui ont résisté. On se rendait compte qu'en fait, l'alcool qui était créé, donc était quasi créé en permanence en fait. Il y avait un feu assez constant dans cet alambic qui réchauffait justement les gens qui étaient autour, qui permettait de faire sécher le linge et justement de créer cet alcool qui était donc très très fort, qui était très concentré.
On a retrouvé la place de feu effectivement et l'alambic qui est non loin. Ouais.
Donc, et justement autour de l'alambic c'était très intéressant qu'on a retrouvé justement beaucoup d'exemplaires des chaussures dont on avait pu parler précédemment avec ce grand talon, ce grand crampon. Donc on pouvait imaginer justement que cette place de l'alambic, cette place du feu en fait au sein même de ce village de Carnac était comme un lieu de culte en fait, comme si des danses avaient justement lieu autour, que les gens voilà, tournaient autour, se réchauffaient autour et s'enivraient avec les vapeurs de l'alcool autour de l'alambic.
Et d'ailleurs c'est a priori le point zéro de Carnac, du Carnac qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'au moment où vous l'avez cité, l'invitation de Gwendal, elle se fait à un moment où Carnac n'existe pas encore. Carnac est né de cette invitation. Oui. À l'époque, on replace, hein, on est vraiment en moins 4400. Il y a très peu de peuples sédentaires. Beaucoup de peuples nomades, par-ci par-là, un peu éparpillés. Et Gwendal, on a retrouvé des petits cailloux gravés avec un symbole qui met dans la tête des peuples nomades de l'époque cette idée de fête.
Oui, en fait, il symbolise une goutte transparente en fait qui est très claire, qui symbolise l'alcool en fait, la fête.
Une goutte transparente et un homme couché sur le flanc.
Donc, par opposition aux gouttes foncées, les gouttes pleines, qui elles étaient gravées sur. Alors, on a retrouvé aussi ça, des anciens pluviomètres, si je peux les appeler ainsi, qui étaient des cailloux creux dans lesquels on laissait s'écouler la pluie, et puis pour voir combien il avait plu. Donc, on gravait ce symbole dessus pour dire que, attention, ça c'était l'eau.
Il y avait une différence entre l'alcool et l'eau qui était faite à ce moment-là.
Il y a beaucoup de symboles de langage là-dessus.
Ouais. Et c'est très intéressant aussi, étant donné que il y avait toute cette histoire d'alambic, de danse, de fête, de peuple, comme vous le dites bien, qui était donc nomade, qui venait justement pour connaître un petit peu, donc, qui arrivait jusqu'à cette fête au final, qui s'est répandue un petit peu comme un épicentre en fait, un Carnac. Mmh. On a pu se rendre compte justement que c'était évidemment ce symbole là, je parle d'épicentre, ça n'est pas pour rien, tous les menhirs justement sont alignés en direction de cet épicentre qu'on a retrouvé. Oui. En fait, il y avait vraiment un hommage qui était lors de ces soirées fait à cette place du feu de Carnac.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Alors déjà, aujourd'hui, on peut en parler, les Bretons n'ont plus la taille qu'ils avaient à l'époque.
Et non. D'ailleurs, on voit on pense que cette taille, elle est aussi due au fait que ils étaient ivres, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils jouaient au jeu du caillou, du gros caillou et au limbo de l'époque toute la journée. Ça a fait d'eux des surhommes, des surfemmes. Mais par contre, c'est là qu'on voit décroître la taille assez facilement la taille des Bretons de l'époque. On a pu estimer au carbone 14 les tailles des dolmens qui rétrécissent au fur et à mesure du temps et qui nous informent du rétrécissement général de la taille des habitants de Carnac de l'époque.
Effectivement, à consommer à cause de ces fortes pluies, de l'alcool de manière régulière. Donc, c'est-à-dire que oui, ils se musclaient grâce à ces gros domaines, ces gros menhirs, hein, mais malheureusement, une carence en vitamine D, en fait. Les os devenaient vraiment faibles. Donc, se sont vus comme quand on met en garde aujourd'hui nos adolescents sur la musculation trop tôt. Bah là, il y a aussi un truc à soulever des cailloux, on se tasse sans calcium, sans apport. Comme vous le disiez aussi, c'est pas des peuples sédentaires. Donc, ils n'avaient pas leurs bœufs, leurs vaches avec, il n'y avait aucun apport en lait. Donc en fait, voilà, et sans le soleil, pas de vitamine D qui se forge sur les os. Et donc oui, les gens se sont tassés, les muscles ont rétréci, les os aussi.
Et aujourd'hui, bon bah du coup, la découverte de Silvio a fait beaucoup de bruit en Bretagne. Moi, je vous invite à aller à Carnac parce que cette année, ils vont lancer du coup l'opération Carnac est une fête, donc qui est un festival pour rappeler en fait un festival dans les chants de menhir pour rappeler un peu ces traditions qui se sont perdues.
Il y aura des reconstitutions, de passages sous les dolmens.
Ouais, il y aura le jeu de bon alors avec des menhirs en mousse, mousse pour se rendre compte de ce que c'était le jeu. Vos enfants pourront courir. Pourront courir dans les dolmens, donc moi j'y serais personnellement.
Moi aussi, vous voulez venir, avec plaisir.
Ouais. Benoît oui, évidemment, j'y serais avec grand plaisir.
Ah bah moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être super sympa, donc vraiment, et puis j'ai hâte de voir probablement Stonehenge est une fête après les annonces de Silvio de l'année prochaine, parce que ça va être remarquable ça aussi.
Donc la fête qui redémarre sur ces lieux-ci des milliers d'années plus tard, grâce au travail des historiens qui remettent un petit peu l'histoire au goût du jour. Merci à vous messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au menhir et à la fête qui les accompagnait. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.